Le journal Jacques-Yves Molima.
Les chefs d'état-major général de FRDC appellent tous les combattants congolais actifs dans la province du Nord Kivu à rejoindre le processus de brassage dans un bref délai. Le ministre provincial de l'Intérieur interpellé hier mercredi à l'Assemblée provinciale du Kassai Oriental, l'explosion des conflits fonciers ces derniers temps dans la province a sorti des affrontements sanglants de Katanda, cause première de cette interpellation. 8 540 000 dollars américains pour la lutte contre la tuberculose en RDC, un don du Fonds mondial de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose. L'accord a été signé entre le PNUD et le ministère de la Santé hier mercredi au siège du ministère. Mesdames et messieurs, bonjour. Tous les combattants congolais des différents groupes armés actifs dans la province du Nord Kivu, plus particulièrement les éléments mixés fidèles au général déchu Laurent Kunda, sont appelés à rejoindre le processus de brassage dans un bref délai. Appel réitéré mardi par le chef d'état-major général de FRDC dans la localité de Sake, environ 27 km de Goma. Le lieutenant général Dieudonné Kayimbé en séjour dans cette province depuis hier, qui est accompagné donc du commandant de force de la MONUC, Babacar Gaye, a annoncé que 4 camps de regroupement doivent être ouverts à cet effet. 2 dans les territoires de Massissi et 2 autres dans celui de Rutshuru. Un projet qui sera assuré conjointement par les FRDC et la MONUC. Écoutez, le lieutenant général Dieudonné Kayimbé au micro de Bernardin Nyangi.
Je viens en particulier demander aux militaires qui se sont égarés, qui sont les militaires des FARDC, parce qu'ils sont rémunérés par les FARDC, qu'ils se rendent au centre de brassage. Le message concerne tous les groupes armés, c'est sans exception. Nous allons ouvrir des points de regroupement à cet effet. À Nyanzale, à Rubare, à Katale, à Murambiro, nous allons ouvrir un autre centre de regroupement. Dans ce centre de regroupement, il y aura des vivres, il y aura un centre d'orientation. Ceux qui veulent bien devenir membres des FARDC vont le déclarer. Ceux qui veulent reprendre leur liberté, qui ne veulent plus porter les armes, vont être intégrés au processus de démobilisation. La MONUC sera présente.
Et quand ça?
Dès demain, ces centres seront disponibles.
Pour le général Babacar Gaye, commandant de force de la MONUC, ce plan entre dans le cadre d'une entreprise du gouvernement congolais visant à une solution pacifique de la crise sécuritaire à l'est du pays. Il ajoute que la MONUC s'est engagée à apporter les soutiens nécessaires pour ce projet. Situation préoccupante pour les épouses des militaires de la 15e brigade intégrée à Kisangani. Elles sont environ une centaine à l'aéroport international de Bamboka et attendent désespérément de rejoindre leur mari dans le Nord Kivu. Elles vivent en plein air à la merci des intempéries. 3 enfants sont déjà décédés en l'espace de 2 semaines faute de soins adéquats. La structure militaire d'intégration attend transmettre leurs doléances à l'état-major général pour une solution appropriée. Godelivo Mondo.
La plupart de ces femmes sont venues notamment de Goma, Bukavu, Beni et Butembo. Elles avaient rejoint leur mari alors qu'ils étaient encore au centre de brassage de Lukusa. Plus de 2 semaines après le déploiement de leur mari au Nord Kivu pour les opérations militaires, ces femmes affirment éprouver des difficultés pour leur survie. Témoignage de l'une d'entre elles.
Ici où nous trouvons, les enfants deviennent malades, ils mangent difficilement, il n'y a pas d'argent, on n'a rien. C'est pourquoi nous voulons rentrer en famille. Ici, nous vivons grâce aux Sénégalais qui nous aident avec de la nourriture. On n'a pas de maison, nous sommes sous les hangars, nous avons déjà enterré 3 enfants ici, on ne sait quoi faire. Les enfants meurent de la diarrhée, du vomissement et des autres, des angines, il fait froid ici.
Cette situation constitue un casse-tête pour la structure militaire d'intégration, affirme le coordonnateur national de cette institution. Pour lui, les femmes des militaires en formation n'ont pas les droits de suivre leur mari au centre de brassage. Toutefois, il promet de transmettre ses doléances à l'état-major général pour une solution appropriée. Kisangani, Godelivo Mondo, Radio Okapi.
Et puis, sachez qu'à Kinshasa, la criminalité est en baisse. Pendant les 3 derniers mois, c'est l'inspecteur provincial de la police de la capitale qui l'a fait savoir hier mercredi lors de sa rencontre avec la presse. Le général Jean-Dédier Oleko souligne que les cas de criminalité enregistrés sont attribués pour la plupart aux hommes en uniforme. Pour lui, ces cas d'insécurité constatés sont dus surtout à la mise en liberté de certains criminels de la prison de Makala. Concernant la circulation routière, le général Jean-Dédier Oleko promet d'appliquer la loi à l'endroit de tous ceux qui vont à l'encontre des mesures portant sur le nombre de passagers à bord des taxis. Des mesures vont frapper aussi les vendeurs qui reprennent place le long des grandes artères routières. Évasion à la prison de Vuovie à 17 km à l'est de Butembo en territoire de Béni. La cinquantaine de détenus a pris le large dans la nuit de mardi à mercredi et la plupart de ces prisonniers sont des militaires condamnés à la peine capitale. Ils avaient été transférés dans cette prison le 15 septembre dernier en provenance de la prison centrale de Béni. Une autre évasion des prisonniers a eu lieu mardi dernier dans la prison de Kavumu en territoire de Kabaré à plus de 30 km de Bukavu. Au moins 30 prisonniers se sont évadés de cette prison. Selon le major Kapimba, commandant adjoint de la police de Kavumu, qui nous a livré l'information, les prisonniers ont pris le large lorsque le surveillant avait ouvert la porte de la prison pour leur donner de la nourriture. Notez que c'est la deuxième fois que les détenus de Kavumu s'évadent en l'espace de 2 mois. Pour rappel, en juillet dernier, ils avaient fait un trou dans le mur de la prison et tous avaient fui. Au sud Kivu, un phénomène peu habituel s'observe depuis quelques mois dans la localité de Minova à 150 km au nord de Bukavu. Plusieurs réfugiés rwandais retournent sur le territoire congolais après leur rapatriement officiel par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Le HCR Bukavu confirme l'information et dit avoir identifié près de 200 réfugiés depuis le début de l'année. Ce phénomène de recyclage est accentué par les conditions de vie précaires que ces réfugiés rwandais rencontrent dans leur pays. La même source ajoute que ces derniers sont également attirés par le kit de rapatriement estimé à 75 $. Écoutez à ce propos Babacar Samba, responsable du HCR Bukavu, au micro de Radio Kapi.
Ce que nous espérons, c'est que nous aurons très bientôt, nous le pensons et nous envisageons, un logiciel pour notre progrès. Ce logiciel est très performant parce qu'il s'agit de recueillir les informations sur les réfugiés et même d'avoir l'empreinte digitale. Pour identifier une personne, il suffit de poser son empreinte et nous avons tout de suite toutes les informations. Cela nous aidera certainement dans les prochains jours, prochaines semaines, améliorer donc notre stratégie. Le matériel est arrivé d'ailleurs au niveau du port. Je crois que c'est à Goma ou à Kinshasa. Nous attendons que ça soit acheminé ici, incessamment, peut-être avant la fin du mois ou le début du mois prochain. Normalement, nous pensons qu'au plus tard, avant la fin de l'année, nous avons mis en place ce logiciel qui permettra d'éradiquer le phénomène de recyclage.
Au Kasaï oriental, les derniers affrontements sanglants du territoire de Katanda ont été l'objet hier mercredi de l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur à l'Assemblée provinciale. Cette intervention s'est faite dans le cadre des questions d'actualité posées par la commission politique du Parlement provincial. Chris Mukand.
Comment expliquer l'explosion des conflits fonciers ces derniers temps au Kasaï oriental et quelles dispositions préventives ont été prises par le gouvernement provincial afin que la situation ne dégénère entre les Bénin Chimba et les Bénin Mwembia liés au Bénin Kapuya? C'est à cette double interrogation posée par le député provincial Ngandou Kabeya, président de la commission politique de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, que devait apporter des précisions le ministre provincial de l'Intérieur. Chipinda Kasongo, ministre provincial de l'Intérieur, a fait la genèse et la chronologie des derniers événements. Il a précisé qu'à ce jour, le nombre de morts chiffre à 30. Une question subsidiaire a fait allusion au paradoxe qu'il y a eu plus de morts au moment où la présence policière a été renforcée. Le ministre l'a reconnu et a expliqué que la police a été prise des cours par le Bénin Chimba. Il rejette l'idée de la passivité de la police et réfute catégoriquement toute implication des forces de l'ordre dans le massacre. Après avoir suivi l'exposé du ministre provincial de l'Intérieur, certains députés estiment qu'il est impérieux que l'Assemblée provinciale diligente sa propre enquête afin de se faire une idée exacte sur les causes et les circonstances réelles des affrontements entre ces trois groupements du secteur de Baluba-Shankadi en territoire de Katanda. Mbouji Maï, Chris Mukand, Radio Kapi.
8 540 000 $ américains pour lutter contre la tuberculose en RDC. C'était don du Fonds mondial de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose. Cette somme va couvrir une période de 2 ans à dater de ce 1er octobre. L'accord a été signé entre le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, et le ministère de la Santé hier mercredi au siège du ministère à Kinshasa. Témoin de l'événement, Mimi Ngumba Mulongo.
Ces fonds serviront essentiellement à l'achat des médicaments antituberculeux que l'on distribue gratuitement aux malades. Selon les PNUD, cette nouvelle subvention est la troisième octroyée par le Fonds mondial à la RDC. Pour le ministre Victor Makwenge, ce financement intervient au moment où la RDC en a réellement besoin. Le ministre de la Santé souligne que cette aide rentre dans un contexte de renforcement du système de santé congolais. Les PNUD renseignent également qu'entre août 2003 et juin 2007, plus de 90 environ 2000 cas de tuberculose ont été détectés, soit un taux de détection de 73%. Parmi eux, 64 000 patients ont été traités convenablement. Présente à cette cérémonie, la société civile a fait savoir son engagement à suivre de près la mise en œuvre de cette activité. Notez enfin que depuis août 2003, les fonds mondiaux ont octroyé plus de 30 millions de dollars pour la lutte contre la tuberculose.
Le bilan de la campagne de vaccination contre la rougeole à Uvira est établi. Le médecin-chef des zones de santé d'Uvira indique que 105% des enfants ont été vaccinés, soit près de 40 000 enfants sur 37 000 attendus. Une augmentation due aux multiples causes. D'un côté, l'augmentation de la population. De l'autre côté, des astuces mises en place par des parents en quête de moustiquaires imprégnés. Fiston Goma.
L'augmentation du nombre des enfants vaccinés contre la rougeole s'explique par la sous-estimation de la population cible lors du dénombrement qui date de fin 2005. À cela s'ajoute la présence des dépendants des militaires qui ont rejoint leurs responsables déployés dans la zone, ainsi que la diminution ou l'augmentation d'âge de certains enfants par le parent pour obtenir la moustiquaire imprégnée. Le médecin-chef des zones de santé, Aloïs Kapama, se rassure toutefois du fait que la majorité des enfants aient été immunisés. Toutefois, il a mis en garde les mamans qui ont négligé l'opération à amener leurs enfants à la vaccination de routine et à ne pas revendre la moustiquaire. L'autorité sanitaire attribue ce succès grâce au concours de ses partenaires nationaux et internationaux, notamment l'UNICEF qui a évalué les activités sur le terrain. Rappelons que cette campagne de vaccination contre la rougeole était intégrée à la vitamine A et accompagnée du déparasitose au mebendazole, distribué gratuitement aux enfants de 0 à 5 ans. D'Ouvira, Fistongo Mamayabala, Radio Capi.
Dans la province de l'Équateur, une épidémie non encore identifiée décime des cochons à Lissala et ses environs. L'inspection de l'agriculture, pêche et élevage du territoire de Lissala dénombre plus ou moins 700 bêtes mortes de cette maladie depuis son apparition il y a près d'un mois. Boniface Mongonzi, inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage du territoire de Lissala, donne les symptômes de cette maladie non encore identifiée au téléphone de Ghislaine Nentobo.
Les symptômes qu'on a constatés après la mort de ces bêtes, avant que la bête morte, ça commence à trembler, c'est-à-dire après la fièvre, ça commence à trembler. Ensuite, quand elle meurt, après le morcellement de la viande, on trouve que la chair devient rouge. Alors ce sont les symptômes qu'on nous a donnés comme information. Et comme les vétérinaires vont descendre, je pense qu'ils vont déterminer exactement de quoi s'agit-il.
Retour à Kinshasa, la mission de la MONUC et ses activités au centre d'un débat hier entre les professeurs de l'université de Kinshasa et le numéro 1 de la MONUC, William Lassiswing. La rencontre a eu lieu au quartier général de la MONUC, organisée par la division de l'information publique de la MONUC. Cet échange visait à informer le plus possible ses leaders d'opinion sur le travail de la MONUC sur terrain afin de lutter contre la rumeur. Témoin de l'événement, Nazaire Koko.
Durant 2 heures, près de 20 questions ont été posées au chef de la MONUC. Parmi les préoccupations, le rôle de la MONUC pour un leadership fort et l'établissement de la bonne gouvernance en RDC, le rapport entre la RDC et le Rwanda. Illustration avec le professeur Poiti du département des relations internationales.
Nous les Congolais, en fait, on a l'impression que vous nous traitez d'une manière un peu plus dure par rapport à notre voisin, le Rwanda. Au Rwanda, il y a eu 800 000 morts. Le génocide est reconnu au niveau international. Et chaque année, on fait beaucoup de cérémonies là-dessus. Nous aussi, nous avons connu plus de 4 millions de morts à l'Est. Mais au niveau international, on ne voit pas tellement une grande attention là-dessus. Et si aujourd'hui, par exemple, on pourrait parler d'un épurement ethnique qui a lieu, n'est-ce pas, à l'Est, on va peut-être nous dire qu'on a un thème un peu trop dur, mais quand on regarde la réalité, je crois qu'on tend vers ce genre de choses. Alors, je voudrais un peu savoir un peu plus sur l'attitude de la communauté internationale là-dessus.
Répondant à cette question, William Swing a précisé le faire au nom des Nations Unies et non de toute la communauté internationale.
Ce soutien de la communauté internationale est le plus fort que jamais pour votre pays. Je ne connais pas ce qu'on fait pour le Rwanda. Qu'est-ce que vous avez ici? Plus grande mission de maintien de paix jamais dans l'histoire des Nations Unies. 1,19 milliard, 3 millions de dollars par jour en dépense ici. Vous avez le seul mission parmi 18 qui a chaque année une visite du Conseil de sécurité depuis 7 ans, 8 ans maintenant. C'est vraiment pour dire, vous avez l'attention maintenant des Nations Unies. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder. Est-ce que ça ne suffit pas? Peut-être pas, parce que vos besoins sont énormes.
Les professeurs ont apprécié ces échanges, même si pour certains, William Swing est resté un fin diplomate.
Voilà, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.